Pourquoi est-il nécessaire de dire et que Dieu prendra sa Torah, ou Menicho Berchepo le mettra sur son sein? Donc, je passe au signe à la question. Vermeer, et il dit, l'émi sha'asak ba, que celui qui a. Oui, alors. Tout ça c'est vrai, mais. C'est occupé de ça. Alors il s'est occupé avec labeur, facilement, avec peine, dans le sens de grande œuvre, etc. Et Michel Asakba, Yavo Vitol Srao, qu'il vienne et qu'il reçoive son salaire. Retenez ce terme de salaire, parce qu'on le retrouvera dans la suite. Est-ce qu'il y a un salaire à la vertu? Et on verra que là aussi, la Gemara va poser la question de la différence entre Israël qui a accepté la loi, et donc il y a un fondement, qu'il y a un salaire à la vertu, et puis ceux qui n'ont pas accepté la loi, même pas la leur loi, les sept mitzvot des Bnei Noir, ont-ils droit au salaire à la vertu? Peut-être qu'on va aller rapidement pour arriver à ce problème-là, d'ailleurs. C'est un problème assez passionnant. C'est le problème du caractère. On va retrouver le kantisme comme interlocuteur. Est-ce que la vertu doit être gratuite et désintéressée? Ou bien est-ce qu'elle n'a de sens que si elle a un salaire? Un salaire dans le sens hébreu de srar. Hein, une, aidez-moi à dire en français.
Mérite.
Non.
Récompense.
Rétribution, ça va mieux. Récompense, c'est déjà un petit peu préjugé que la rétribution est en bien. Parce qu'il y a eu mérite dans le sens positif. Rétribution, ça va, mais je cherche un autre mot quand même.
Compensation.
Vous voyez, tous les termes que vous dites engagent déjà des doctrines philosophiques de conception du salaire de la vertu. Est-ce que c'est une rétribution? Est-ce que c'est une récompense? Et c'est différent?
Il y a mon employé en Pirkei Avot, mais je ne sais plus à propos de cela.
Amenat Kabel Pras, par exemple. Là, c'est gratification, trace. C'est d'ailleurs le mot d'où vient le mot français prix. Un prix.
Oui, qui peut être dans les essences, d'ailleurs.
Attendez, non. Qu'est-ce que vous voulez dire, dans les deux sens?
Le prix, ça peut être en bien ou...
Ah oui, oui. Le prix de l'effort, par exemple.
Oui, ça, oui. Il y a un terme en français aussi qui peut être pris dans un sens ou l'autre, c'est le terme sanction. Ça peut être une sanction en bien ou une sanction en mal.
Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les sanctions. C'est sanction dans le sens de rétribution, mais déjà rétribution engage qu'il y a une idée de paiement dû.
Oui.
Et c'est le terme que les philosophes emploient pour dire dans les catégories du vocabulaire du problème moral, rétribution et sanction. Et voilà quel est le thème. Il s'agit de poser la question de savoir si ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qui s'est passé dans la vie, a un itron, comme dira l'Ecclésiaste, un surplus, ça mène à quelque chose de plus, ça a eu un tahlit, ça a eu un plus qu'un but, ça a eu un objectif, ça sert à, ou bien c'est absolument gratuit. Et quand c'est fini, il n'y a rien de plus dans l'absolu. Et que finalement l'histoire du monde serait une histoire d'un jeu avec un grand J, un jeu de l'absolu, si vous voulez. Et alors le temps serait le temps cyclique dont on a parlé dans ce séminaire d'ailleurs, c'est encore une fois. Et la position, c'est un débat dans la tradition, mais la position de la tradition, la réponse est finalement qu'il y a un surplus. Sinon, cette gratuité rendrait, terrifiante, le problème du fondement de la vertu. Et je cherche un peu mon vocabulaire aujourd'hui en français, comme vous voyez, mais je pense qu'il est suffisamment clair. Et ici, le débat est avec le kantisme. Pour le kantisme, pour Kant, la vertu n'a de valeur morale que si elle est absolument désintéressée. Mais pour le judaïsme, s'il n'y a pas... intérêt à la vie, la vertu peut devenir dévastatrice, démoniaque, encore une fois, de la même identité humaine qui avait le sentiment de cette vertu de discipline absolue et sorti le plus grand mal possible. Bon, j'ai court-circuité encore les, les deux notions que j'ai mises en relation, mais je pense que c'est suffisamment clair. Et je ne peux pas ne pas citer de nouveau ce que un grand historien de la philosophie, Alexandre Kojève, avait dit de Kant, si c'est bien lui, sinon vous corrigerez dans ma mémoire, mais avait dit de Kant, Kant a les mains pures, mais il n'avait pas de mains. C'est cette vertu tellement aseptisée, si j'ose dire, qu'elle est plus néfaste qu'éclairante. Ça m'a fallu une autre expression en français, ça se compte sur les doigts de la main d'un manchou. Bien. Et alors on va voir effectivement que Dr. Mead va poser sérieusement ce problème. Est-ce que celui qui se comporte comme demande la loi, comme demande la vérité morale, n'est pas escalité, que son comportement est une réalisation d'une loi, a-t-il droit à une sanction, une rétribution? Vous voyez tout de suite où ça s'accroche. C'est que on appellera Hassid des Oumata Olam, les pieux des nations, que ceux qui observent les sept lois de Noé avec la conscience très précise qu'ils s'acquittent d'une obligation révélée par Moïse aux nations du monde, de la même manière que Moïse a révélé la Torah à Israël. Sinon, on les appellera les sages des nations et pas les pieux des nations. Vous vous rappelez du débat que nous avons eu, est-ce qu'un noachisme est possible de notre temps? Et à quelles conditions? C'est surtout la deuxième partie qui est plus importante. À quelles conditions? Parce que je crois que le problème est dépassé, je ne sais pas s'il doit se poser dans les termes de est-ce qu'un noachisme est-il possible, mais est-ce qu'un noachisme est-il nécessaire, inévitable? Qu'est-ce qui remplacera l'effondrement des idéologies de la civilisation contemporaine, qu'elle soit religieuse ou marxiste? Et qu'est-ce qui remplacera ça, si ce n'est pas le noachisme? Donc c'est en termes de... C'est inévitable qu'il y ait quelque chose de l'ordre du noachisme. J'étais extrêmement frappé par une des interventions de Dubchani dans son exposé, lorsqu'il a dit qu'après la guerre, il aurait fallu imposer le noachisme aux Allemands. Ça m'a beaucoup frappé. Effectivement. Mais je ne crois pas que ça marcherait, parce que finalement les Allemands ne sont pas kantiens. Kant était allemand, ce n'est pas que les Allemands sont kantiens.
Enfin, est-ce qu'on peut imposer le noachisme ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accepter de soi-même?
Oui, enfin imposer comme la Torah nous a été imposée. D'ailleurs, ça aussi, c'est indiqué que les nations du monde auront cette finesse de dire adieu au moment du jugement. De toute façon, si on recommence, il faut que ça recommence avec le même privilège d'Israël. Israël a la dignité de la loi parce que tu la leur as imposée. Impose-nous. Parce que si tu n'imposes pas, on ne reçoit pas. Ça vaut la peine de voir ça dans le texte. On prendra ce texte immédiatement après l'abstract. Et je reviendrai donc sur ce sujet. Que s'est-il passé au Sinaï la semaine dernière, ce qu'on a lu la semaine dernière, quand la Torah était imposée à Israël. Il se dévoile qu'il l'a quand même acceptée volontairement, librement, mais ça lui a été imposé. Il y a un privilège, les nations ressentent cela comme une frustration que Dieu ne les aime pas suffisamment pour leur imposer la Torah. C'est pas paradoxal ce que je dis.
C'est comme pour les enfants.
Ah, explique.
Si on n'impose rien aux enfants, c'est l'angoisse pour eux.
Ah, c'est ça. Oui. Oui, on pourrait formuler ça comme ça. Elle n'aime pas, elle m'empêche pas de sortir.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ça me rappelle un ouvrage qui me revient en mémoire. Et un ouvrage que j'avais appris pour la première fois lorsque j'ai entendu pour la première fois le Kaddish de Berditchev en yiddish. Est-ce que vous connaissez ce chant, le Kaddish de Berditchev? Ah, ça, il faut le connaître. Ah, essayez de dépister un chazan yiddish qui le connaît encore. Et enregistré, ça vaut la peine. Bon, il existe en Israël. Et alors, c'est le Yitzhak de Berditchev, un des grands des Hasidim, qui, il y a un de ses descendants, tenait un bar à Elat, il y a une vingtaine d'années, quand je ne sais plus quel corps de l'ONU est passé au Sinaï. Et puis un des officiers de ce corps de l'ONU était un descendant de Berditchev, de la ville de Berditchev. Et puis, pour aider ses collègues à pouvoir acheter et à boire dans ce bar, il a dit, bon, je vais parler yiddish, ça ressemble un peu à l'hébreu. Il parle yiddish, alors le tenant du bar lui dit, tout c'est du bifu du Parishek, il dit, mais moi je suis le descendant du rabbin. Imaginez comment l'universel humain se rencontrait. Bon, je referme la parenthèse. Alors, il y a un kaddish où il cite Dieu devant son propre tribunal pour lui demander compte du sort des juifs. C'est un très beau kaddish. Un de ses arguments, c'est de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu as contre ton peuple d'Israël? Tu ne t'adresses qu'à eux. Parle aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël, Dieu et les autres. Alors, ici, et les Grecs, et les Babyloniens, et les Perses. Alors, Dieu qui répond... Non, ça c'est moi qui interprète. Je vous file d'abord le kaddish. Le rabbi de Tratiev lui-même donne la réponse en disant, mais je sais pourquoi, c'est à nous que tu t'adresses. Vous avez compris un peu la forme de cette plainte. Et parce qu'on reçoit la loi comme quelque chose d'imposé. Tzav el ben Israël, Daber el ben Israël et les autres. Alors, le rabbi de Tratiev dit, oui, je sais, parce que les autres reconnaissent leur tzav, leur César, leur... Alors que nous reconnaissons que le roi des rois des rois, et c'est pourquoi c'est à nous que tu t'adresses. Mais j'ai entendu déjà avec un autre enseignement que ça pourrait être la fin aussi de ce kaddish, que Dieu aurait dit au rabbi de Verdichev, tu veux que je m'occupe des autres? Il aurait dit, non, on accepte le sort qu'on a, mais on ne t'occupe plus. Bon, mais je crois qu'il y a, moi je ne pourrais jamais l'exprimer parce que Il faudrait être goy pour pouvoir le vivre. Une frustration de ce que, alors que c'est terrible la loi, mais que Dieu n'a décidé qu'elle n'a donné qu'à Israël. Est-ce que c'est clair? Alors je parle pour les goyim, hein, parce que pour un juif, c'est pas terrible la loi. Nous avons une fête qui s'appelle Simchat Torah. Imaginez une fête dans le folklore français qui serait la fête du code de la route. Je ne parle même pas la voilà, 14 juillet, bon, mais la fête du code de la route. Et vous verriez des Français pieux danser avec le code de la route. Bon, vous voyez que c'est les Juifs. Or, c'est ça. Et c'est les Grecs qui ont premièrement formulé cette panique devant la loi. D'où Saint Paul et tout ce qu'il en dit. Mais pour un Juif, l'idée que. Alors, quelle est la raison philosophique de la différence? Ça, on a étudié, mais il y a longtemps. Pour les goyim, la notion de loi, c'est la formulation impersonnelle, impitoyable, de principes en morale, comme il y a des principes en mathématiques. Le logos. Okay. Alors que pour un juif, c'est l'expression de la volonté de quelqu'un, et c'est pas n'importe qui, celui qui nous a créés. Alors, la connotation de la notion de loi n'a rien à voir. Est-ce que c'est clair? Quand Saint Paul parle de nomos pour traduire Torah, c'est un scandale. C'est une escroquerie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand par exemple, des rabbins, ça leur est arrivé au moment après la Révolution française, ont fait une analogie entre la Constitution française et les 10 commandements, ils savent pas de quoi ils parlent. Est-ce que c'est clair? Et j'ai lu, même entendu des sermons où on faisait des analogies très précises entre les principes de la Révolution française et les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a cette différence. Et pour la pensée humaine naturelle, la notion de loi morale entraîne une panique. Parce que... bon, vous m'aidez à formuler en entendant... Hein, parce que quand on dit loi, c'est très analogue à ce que nous appelons loi de la nature, la loi impitoyable. Alors que pour un juif, quand on dit Torah, ça veut dire la volonté de quelqu'un, et encore une fois, pas n'importe qui, le quelqu'un qui nous a créés, qui connaissant notre nature, peut nous juger toutes circonstances connues. Et j'ajoute une chose, c'est ce qui explique cette projection de la loi et le Père, et la crainte du Père, et Dieu le Père, et Dieu cruel, et Dieu terrible, tout ça va ensemble. Et les psychanalystes savent très bien comment ça fonctionne. Mais encore une fois, c'est un mécanisme psychologique goy. Si un juif entre dans ce mécanisme, c'est qu'il est assimilé. Il est assimilé à quoi? À l'homme de nature.
Je n'ai pas lu le livre. La psychanalyse est-elle une histoire juive qui est un ensemble de témoignages de psychanalystes juifs, précisément?
Attendez. Ah bon, non, je ne sais pas. Si, vous pouvez me donner le... Par contre, dans le numéro du Monde d'avant-hier, je crois, j'ai lu un long article de Miller.
Gérard.
Non, Arthur, je ne sais pas quoi, qui est l'héritier de Lacan, quoi.
Ah oui, oui. C'est
oui.
Alain.
Oui, Machel Gazé. Mais c'est un Français, lui.
Oui, oui. C'est son gendre.
C'est ça, oui, c'est son gendre. Et alors, qui dévoile alors, le chaos des écoles psychanalystes entre elles, donc, ça dépasse la communauté juive. Il faut complètement. Non, il n'est pas juif, mais il aurait pu, je sais pas. Ah oui, peut-être, hein. Ah, peut-être. En tout cas, je sais que de temps en temps, il dirige des séminaires en Israël. Et il est très apprécié, d'ailleurs. Très intelligent, très sage, je dirais. Mais alors, c'est la première fois que j'ai trouvé, en lisant cet article, les chicanes des sectes. Mais c'est quelque chose de rassurant. C'est inouï à quel point toutes ces écoles avec un grand E deviennent finalement la scolastique dans le sens médiéval du mot école, mais péjoratif. Donc, alors oui, vous vouliez poser une question, je vous ai empêché.
Non, c'était, je voulais rajouter simplement, quand vous parliez de la loi Azer, simplement rajouter Duralex de l'ex, c'était à ce moment-là.
Voilà, c'est ça, c'est cette notion-là.
Oui, c'était pas vraiment
Dès que j'ai commencé à apprendre un peu de la fenêtre grecque, je me suis rendu compte que le dialogue était impossible. Le mot n'a pas du tout le même sens. Encore une fois, la notion de Torah, c'est l'expression du vouloir de quelqu'un, de la volonté de quelqu'un. Alors que dans la culture générale dans laquelle nous sommes, la loi, c'est l'impersonnel absolu. Et ça m'a fait découvrir par la suite, au fond, que le légalisme, qui connote dans le vocabulaire français pharisaïsme, ben le légalisme c'est précisément romain et c'est devenu catholique, alors que le pharisaïsme c'est la liberté de la conscience se sachant, se mesurant non pas avec l'impersonnel de la loi mais avec la volonté de quelqu'un. Vous savez comment dans l'étude talmudique comment on appelle le texte de la Torah? Lorsqu'on dit le texte de la Torah, vous voulez dire que Rahamana, la miséricorde a dit que. C'est pas de l'humour juif, ce serait à la limite de l'humour talmudique. Or, il est évident que la société juive est perpétuellement dans le risque de tomber dans le sadducéisme, qui est un légalisme de la loi, mais c'est pas du tout le pharisaïsme. Est-ce que c'est clair les mots que j'emploie? C'est-à-dire que très souvent, quand je rencontre des orthodoxes, je me sens de ce qu'on appelle des orthodoxes entre guillemets. Je suis en train de percevoir une réapparition des tendances qui ont fait les sectes du deuxième temple, d'un côté des tendances christianisantes et de l'autre côté des tendances sadducéennes, qui sortent, qui sont en gestation dans ces milieux dits orthodoxes. J'espère que je vous fais peur. au fond, je veux dire une chose énorme, mais la seule manière de se garder juif, c'est d'être sioniste aujourd'hui. Parce que si on n'est pas hébreu, dans le sens israélien de bonne santé, si vous voulez, on risque de devenir sadducéen, chrétien, et tout ça à l'origine c'était juif, mais à l'origine c'était. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je crois qu'il y a un ressort de bonne santé du peuple comme tel, qui, quels que soient les discours idéologiques, officiels, rabbiniques ou non, ressentent que. L'identité juive, ça passe par Israël, l'État d'Israël, et pas par les sectes. Est-ce que c'est clair ce que je dis? On vient de parler de. Bon, c'est pas enregistré, j'espère. De toute une série de Hiloula de Papa Baruch, encore une fois, de Baba Salé. Bon, c'était épouvantable. J'avais dit une fois l'année dernière que ça devrait s'appeler Hiloula et pas Hiloula. Ils vont même lancer sur le marché. Des arachides sacrés qu'ils appelleront des cacahuètes salées. On y est. Bien. Enfin, avec les juifs, tout est possible. Dans cela, c'est-à-dire même être légaliste. Donc, je pense que c'est clair. Quel? Alors, on prend l'avant-dernière ligne. Non, la troisième ligne avant la fin. Les Misha Asakba Yavo Vito Tsharo. C'est là qu'on s'était un peu arrêté, le Tsharo. Je vais quand même revenir un peu sur cette idée. C'est que je vous cite cette Mishnah. Mais réétudiez-la d'autre part. La Mishnah dit ceci. Et c'est qui enseigne cette Mishnah? Al-Tivouk Avadim? Attendez, oui. Shimon HaTzadik, non? Shimon HaTzadik, Ayamishi Ere, Anshik Neset Agadla. C'est pas Shimon HaTzadik, c'est qui? Vous avez un Pirkei Avot? Absalion. Absalion. Alors, Absalion Omer, Al-Tivouk. Non, c'est pas Absalion, c'est avant Absalion. Et apportez-moi un Pirkei Avot. Non, je crois qu'il avait un nom grec, d'ailleurs. Ça m'échappe. C'est que hier soir, j'étais à Lyon, alors je vois pas le rapport. La mémoire est restée là-bas. Hein? Ah, tu vois, c'était inconscient. Bon, ça vaut la peine de citer donc son nom, mais je vais d'abord vous dire le contenu, parce que ça, c'est plus facile à retenir. Il dit ceci, « Al-tihu ka-avadim, ne soyez pas comme des serviteurs, avoda, être au service de la loi, am-shamshim et alav, qui servent le maître. » C'est à peu près le même sens que la asok, les shamesh. Le grand personnage de la communauté, c'est le shamash, celui qui sert. Le Shimush Hachamim est plus important pour recevoir la Torah que étudier comme élève de Hacham. Le Shimush Torah est l'homme de Torah. Celui qui s'attache à la vie du Tamid Hacham et l'aide à vivre, qui s'appelle Shimush, apprend plus de Torah que celui qui apprend ex cathedra comme ça, d'élève à maître. Lorsqu'on voit qu'un Talmid Chacham sur un point n'est pas très compétent, alors l'expression dit Lo shimesh et travaux kol sorko. Il n'a pas fréquenté et donc appris pratiquement avec son maître suffisamment. Lo shimesh et travaux, c'est pas Lo limed maspik. Il n'a pas suffisamment étudié, mais est-ce que c'est clair ce que je dis? Top. Alors donc, Amshamshim et Arav, qui sont au service du maître Almenav Sekabel Pras, dans l'intention de recevoir une gratification, Pras, et là, mais, Hevuk Avadim, soyez comme des serviteurs, Amshamshim et Arav, qui servent le maître, Shelo Almenav Sekabel Pras, pas en vue de recevoir un Pras. Il y a une manière de lire, à la fin, que signe le Maharal, qui dit Almenav Shelo Lekabel Pras, et pas Shelo Almenav Sekabel Pras, c'est-à-dire en vue de ne pas recevoir un salaire. Oui, en poussant la limite, l'attitude kantienne, si je veux dire. Et alors, la difficulté de cette Mishnah. D'accord. Pourquoi la synagogue est fermée?
C'est fermé.
Bon, les synagogues sont fermées. Et alors, la difficulté, c'est la formulation indirecte de l'enseignement. Pourquoi dire comme cela? Ne soyez pas ainsi, mais soyez plutôt ainsi. Pourquoi ne pas dire directement, soyez des serviteurs qui servent le maître de façon désintéressée? Pourquoi dire, ne soyez pas comme ceux qui servent de façon intéressée, mais soyez comme ceux qui servent de façon désintéressée? Vous avez senti la question? Okay. Bon, eh bien parce qu'en fait, il y a un sera, il y a une rétribution, une compensation, un salaire, tout ce que vous voudrez. Mais il y a ici un conseil que l'intention du service ne soit pas portée sur ce sera. Et après, j'ai changé de terme. La Mishnah dit pras, et je vous parle de sera. Il y a une troisième expression sur laquelle on va réfléchir, c'est « Matan Sraran Shel Tzadikim », que le Srar est appelé « Matan », un cadeau, un don. Si c'est un salaire, ce n'est pas un don. Bon, je vous dis tout de suite une des réponses. Le fait qu'il y ait un salaire, c'est un cadeau. Mais ça, on y arrivera peut-être. Et la consigne qu'il y a ici, ce n'est pas d'enseigner qu'il n'y a pas de salaire à la vertu, mais qu'il vaut mieux être au service de la vertu sans du tout penser à ce salaire. Mais il faut savoir qu'il y en a un. Sinon, on ne serait pas formulé ainsi. Voilà, c'est clair ? Alors, on appelle l'hérésie des Batucéens et des Sadducéens, comme disent les historiens, Baitos veut Tzadok, Tzadok a donné les Sadducéens, et Baitos a donné. Et c'était les deux disciples de ce maître, dont je cherche le terme, mais ça va me revenir, et qui n'ont pas compris l'enseignement de leur maître, et qui ont fondé des sectes qui avaient comme position un légalisme sans rétribution. Si Madame Molcho était là, j'aurais dit il y a un peu en filigrane le piège de cela dans l'œuvre de Lévinas. On attend les Pirkei Avot, mais je vais vous le citer.
C'est Antigone.
Antigone. Et c'est à ce propos qu'on a dit de Tzadok Baitus, ils n'ont pas, c'est plus qu'appris avec leur maître, les Shamesh, okay, leur maître suffisamment. Ça veut dire, à la limite, ils n'auraient pas le droit de citer leur maître, puisqu'ils citent comme des haut-parleurs, mais avec un autre sens. Est-ce que c'est clair? Okay. Et à ce propos, on a dit dans la Mishnah, et d'après la tradition du commentaire de Pirkei Avot, c'est relié donc à cette erreur de Tzadok Baitus, c'est Hachami Mizao Bidivrechem, sage, soyez prudent lorsque vous parlez, Shema Tachovu Chovat Galut, de peur que vous ne soyez frappé d'une sanction d'exil, à l'époque où les Romains traquaient les Hachamim et les exilés, ou Baou, et viennent après vous. Des Talmidim qui boiront des eaux mauvaises. Vous connaissez cette Mishnah? Oui, je vous la lirai dès qu'on n'a pas encore lu. Et voilà, je vais essayer de simplifier le problème. Il y a deux éléments. Le comportement de la vertu doit être désintéressé. Mais l'intention de la vertu est de savoir qu'elle sert à quelque chose et que ça nous mène quelque part. Parce que sinon, un idéalisme de la vertu pour la vertu, finalement, fait échouer la morale. Ça s'effondre un jour. Mais ce que cette Mishnah veut transmettre, c'est que porter l'intention de la pratique de la vertu au salaire fait effondrer la conscience morale, parce que le salaire, c'est pas pour maintenant. Est-ce que c'est clair? Mais je vais encore paraphraser plus, pour être sûr que ce soit clair. On vous donne un exemple, j'avais l'habitude de donner dans les cours de philosophie. Par exemple, Kant dirait que quand une mère aime son enfant parce que c'est son enfant, c'est de l'amour intéressé, c'est pas complètement pur, c'est pas la vertu par devoir. Il faut aimer son enfant, pas parce que c'est son enfant, mais parce qu'il y a un devoir d'aimer son enfant. Vous voyez, ça c'est le légalisme au niveau le plus... Bref, idéaliste. Et alors, la sensibilité juive fait éclater cela. Ça, c'est de la caricature de la vertu. Et ça mène au nazisme. Et vous avez compris tout ce que je vous ai court-circuité. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande valeur de la création qu'une mère aime son enfant parce que c'est son enfant. À qui on veut faire confiance pour aimer un enfant, sinon à sa mère? Bon, les marâtres méritent une paire de gifles, mais ça, c'est les échecs. Vous avez compris, alors, vous voyez comment on est séduit par un exposé de vertu désintéressée sans se rendre compte que c'est diabolique une vertu pareille, que l'essentiel de la vie est évacué, est mis en question. Et est-ce que c'est clair ce que c'est l'ambiance de la pensée juive contemporaine, en particulier en France, de se congratuler de parler de la vertu désintéressée? Il faut se méfier des gens de la vertu désintéressée. Est-ce qu'il la pratique? Il la contemple. Bon, j'ai parlé avec personne. Est-ce que c'est compris ce que je voulais dire? Donc, ce problème de cette phrase-là, de Mish, Asakba, Yavo, Vitol, Tsrao. Alors après, on pose la question, et quel est ce salaire? Bon, et même si on n'en sait rien, c'est la conviction que ça mène à quelque chose qui vaut la peine, qui est le fondement de la vertu, qui est le judaïsme essentiel. Il y a une seule tendance chrétienne de laquelle on peut dire que leur vertu est sous-tendue par quelque chose d'un autre, c'est les mormons. Le mormon est vertueux parce qu'il sait que son âme en profitera. Sous quelle forme, c'est son affaire. Okay. Mais ce sentiment que ça sert à quelque chose, ça mène, et que c'est cela la volonté du Créateur, c'est en vue de ce salaire qui nous fait passer par le travail, par le service. Voilà, est-ce que c'est clair?
Oui.
Ah, c'est l'autre texte.
Oui.
Et bien on s'était arrêté là. Alors on n'avait pas eu la réponse. Et bien la Gemara dit, tzadik gamour.
Oui.
Ah ben justement. Ça veut dire que. J'essaie d'expliquer plus grâce à votre question. Ça veut dire, s'il reste moral, malgré, bien que, mais c'est très bien, son acte est moral, ce qu'on craint, c'est qu'il renonce à la moralité lorsqu'il ne voit pas le salaire arriver. C'est ça qu'on craint dans notre Mishnah de Antignos Tishsoro. Je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure. Et je paraphrase comme ça. Il vaut mieux servir comme ceux qui n'attendent pas de salaire, ils ont tort, il y en a un, que de servir comme ceux qui attendent un salaire, ils ont raison, il y en a un, mais parce que comme le salaire ne t'arrivera pas de façon évidente, tu risques d'être déçu. Est-ce que c'est clair? Alors, si j'ai réussi à dire que les deux choses à la fois sont importantes, il y a un salaire et ne pas compter dessus. Bon, c'est la difficulté de la morale vraie. Hein? Parce que s'il n'y a pas de salaire, Dieu préserve. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Est-ce que c'est clair? Et alors, ça dépend des âges, de la sagesse. Alors, quand on est dans la fougue de l'adolescence, on ne se rend pas compte, mais arrive le temps de la maturité. Et alors, soudainement, on découvre qu'on a transmis aux enfants un monde qui n'en valait pas la peine. Enfin, je mets ça au conditionnel de ceux qui ont échoué dans cette vertu-là. Okay? Bon, vous avez compris?
Pour le christianisme, le motif du christianisme, vous pouvez l'aider, c'est soyez vertueux parce que le salaire est déjà là.
D'accord, mais d'une façon générale, le christianisme orthodoxe, disons, ben dans le sens qu'il y a un salaire. Alors ils appellent ça l'au-delà, le monde, peu importe. Chacun aura le salaire qui se sera inventé.
Merci.
Non, ça c'est cachère, je veux dire.
Si vous êtes vertueux, le salaire est déjà là. Si vous êtes unis au Christ, c'est-à-dire tout le polynisme est là.
Oui, là je ferai une critique en disant qu'on pourrait tout inverser, qu'en réalité le polynien c'est interdit de pouvoir recevoir son salaire. Et il y a une Mishnah dans le Perek Hele qui est très claire. Parce que ne pas vivre avec les recettes qui mènent au salaire, eh bien fait que quand on aura fini, il n'y aura pas de salaire. Je ne sais pas si c'est clair. Et cette phrase, quand c'est dire le salaire est déjà là, ça veut dire, c'est une manière de dire, on n'en aurait pas. Puisque vous l'avez déjà, mais qu'est-ce que vous n'avez rien? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est sûr qu'il y a. Bon, il faudra qu'on le trouve. Mais ça ne fait rien. Est-ce que c'est clair, en tout cas, le sens? En tout cas, dans la pensée juive contemporaine, le philosophe qui restera comme le philosophe de la vertu désintéressée, c'est Leibovitch, dont vous avez certainement entendu parler. Okay? Bon, ben c'est le Sadducéen par excellence. Okay? D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. La première fois que je l'ai rencontré, il y a au moins entre 35 et 40 ans. C'était un séminaire d'étudiants qui se passait d'ailleurs à Amsterdam. Et alors, quand il avait fini de parler, alors j'ai dit, j'étais jeune, j'ai eu de panique, comme c'est pas possible. Et remarquez, s'il avait dit plus gentiment, ça aurait été plus grave. Parce que là, au moins, on a tous rigolé un peu. Alors, vous connaissez Nechama Lebovitch, sa sœur? Vous avez entendu parler? Et je la connaissais déjà. Et alors, j'ai dit, bon, ben, je te remercie, c'est la première fois que je vois un Sadducéen vivant. Et alors, elle se dit, mais tu ne peux pas savoir à quel point j'ai du respect pour ta sœur. D'ailleurs, si elle n'était pas déjà mariée, moi aussi, je l'aurais demandé un mariage. Alors, il s'est détendu. Mais Nechama Lebovitch, vous l'avez vu? Elle a un chapeau basque et une moustache. Mais c'est un grand savant. On l'appelle Rabbeinu Nechama. Donc, elle est très âgée maintenant. Et alors, en France, j'ai cité comme ça en passant. Le village, je ne crois pas qu'il soit vraiment comme ça. Mais en tout cas, son texte mène d'autres à dire ça. Et des fois, ça le gêne beaucoup. Est-ce que c'est clair? Bien. Quelle heure est-il?
11h25.
Déjà, voilà, il faut que je prenne au moins 10 minutes de téléphone. Et puis tu en as. Je vous avais demandé de me prévenir vers 11h, mais. Alors, j'ai pas demandé. C'est moi qui. Alors. Ben, j'ai parlé des juifs russes, on m'a apporté un cacao de russe. Oui. Non, je trouve là.
Je crois que c'est.
Vous l'avez trouvé la Mishnah?
C'est pas celle-là?
Attendez, c'est je vois. Un petit nom sur ce là. C'est ça, c'est l'élève de Shimon HaTzadik. Donc je les ai coursés. Alors, je vais voir si je trouve l'autre Mishnah, Chachamim Mizahou Bidibourim. Qui a dit ça? C'est Atalion qui a dit Chachamim Mizahou Bidibourim. Il me semble. Donc, vous la chercherez parce que vraiment ce matin, je n'ai pas les références en tête. Mais je vais vous relire la Mishnah. Voilà, c'est ça. La Mishnah 11, Aftalion Omer, Hachami Mizahu Bidivrechem, Shema Tachou Vuchovat Galut, Betiglou Limkom Maimaraim, et que vous soyez exilés à l'endroit des eaux mauvaises, Veishtu Atamidim Abaim Acharechem, et que boivent des élèves qui viendraient après vous, Veyamutu, ils en meurent, Venimsa Hachem Shamaim Mitralel, et le nom de Dieu s'en trouvera pour profaner. La difficulté dans la Mishnah, c'est qu'est-ce que c'est que cette décision d'exil qui risquerait de porter sur les Chachamim qui n'auraient pas été assez prudents dans leurs paroles, et qu'est-ce que ça veut dire que les élèves qui viendraient boire après eux boiraient de ces eaux mauvaises. Rapidement, c'est que d'une façon générale, à cette époque, c'était très dangereux d'enseigner en public. Et il y avait une consigne très générale aux Chachamim, qui étaient courageux et donc imprudents, de faire très attention à ce qu'ils disaient, parce que si ça arrivait au pouvoir romain, ils risquaient d'être exilés. C'est clair, hein? Et c'est pourquoi dans la Mishnah, déjà, il y a toute une atmosphère que tout ce qui concerne l'identité nationale judéenne est occultée dans la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi, parce que c'était extrêmement dangereux de formuler les choses en clair. Et c'est la Gemara qui reprend tout ce qui concerne Yamut HaMashiach, la reconstruction du temple, la législation des rois, tout cela, c'est la Gemara qui reprend ça. Et il y a un commentaire de la Mishnah qui s'appelle le commentaire d'un grand Hacham Ashkenaz, qui s'appelle, et aujourd'hui ça m'échappe, mais je retrouve ça, Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov, c'est le nom du livre, alors qu'il explique qu'il y a trois causes à la galoute. L'idolâtrie, les fautes fondamentales de Avodah Zarah, Gilou Arayot, la débauche, et le meurtre, plus une quatrième, le Lashon Hara, la médisance. Et alors, ce commentaire explique de cette manière, faites attention quand vous traitez de ces sujets, parce que si vous avez une faute dans l'enseignement, vous êtes passible d'exil, puisque c'est les fautes qui mènent à l'exil. Est-ce que c'est clair? Mais c'est à un autre niveau, le commentaire. Alors, pour ça, je voudrais vous ajouter sur la formule de la Mishnah, un commentaire kabbaliste, Chachamim, Isaou, Bridi Brechem, le Pshat, ça veut dire, soyez prudent, et Isaher, circonspect. Alors, chez les kabbalistes, on dit, Chachamim, Isaou, Bridi Brechem, sage, mettez le Zohar dans vos paroles, Isaou, Bridi Brechem, c'est joli. Et de peur que vous ne soyez passible d'exil, parce que c'est l'enseignement de la Kabbalah qui nous délivrera de l'exil. Alors, ceux qui n'enseignent pas le Zohar sont cause de l'exil. Ça, c'est encore un autre niveau de lecture. Est-ce que c'est clair? Non, mais on fait que ça, sans le citer. Bien. Alors, je vous ai reprendre le texte. Alors, nous étions donc arrivés à la troisième ligne avant la fin de la première page. Première.